Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 19 juin. Bertrand Touradamé pour vous accompagner pour 7 heures de français sur les antennes de la radio SBS. Au menu de notre programme, nous allons avoir notre rubrique hebdomadaire rétro. Et cette semaine, on va voir l'exécution des époux Rosenberg aux États-Unis. C'était en 19 juin 1953. Nous allons également voir l'expérience d'être une femme française et mariée en Australie. Et en plus de l'actualité de ce samedi, nous avons les dernières nouvelles sur le front sportif. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 2 cas de coronavirus, portant son cluster de Bondi à 6 infections. Le variant Delta de Covid-19 au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et Joe Biden tente de relancer la campagne de vaccination aux États-Unis. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 2 autres infections au coronavirus alors que les autorités de Nouvelle-Galles du Sud, donc de cet État, s'efforcent de contenir une épidémie dans la banlieue est de Sydney. L'un des cas donc répertoriés est une femme d'une 40aine d'années qui fréquente régulièrement le centre commercial de Westfield à Bondi, Bondi Junction. L'autre cas est un homme d'une 50aine d'années qui a été en contact avec un chauffeur de limousine contagieux pendant une brève période. Un autre homme âgé d'une 30aine d'années sera inclus dans les chiffres de demain, mais son infection a été signalée samedi après avoir également visité le centre commercial Westfield Bondi Junction. Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a déclaré que ce cas s'était rendu dans un café de la région de l'Illawarra hier, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'un autre site d'exposition au virus.
Delta virus is a near and present danger. It's a virus that is very capable of transmitting even when we have very fleeting proximity between the individual who is infectious and any of us who might be passing by.
Le Queensland a déclaré la banlieue de Wavaley à Sydney comme un foyer d'infection au coronavirus. Ainsi, tous les visiteurs qui se seraient rendus dans cette zone seront contraints à la quarantaine à l'hôtel à leur arrivée au Queensland. Cette mesure est entrée en vigueur à 1h ce matin. La banlieue de Waverley comprend les quartiers de Bronte, Tamarama, Bondi, Dover Heights, Rose Bay, Queen's Park, Bondi Junction, Vaucluse et Charing Cross. Queensland Health a également demandé aux résidents de reconsidérer leur besoin de se rendre à Sydney. Les Melbourniens, quant à eux, qui espéraient passer des vacances au soleil pendant les vacances scolaires, ne pourront pas bénéficier de cette opportunité. En effet, la frontière du Queensland reste fermée aux habitants du Grand Melbourne pendant au moins une semaine de plus. Et le Victoria a enregistré un nouveau cas de coronavirus local après plus de 30 000 tests effectués au cours des dernières 24 heures. Le département de la santé du Victoria affirme que ce cas unique est un contact étroit primaire d'un cas existant. La personne concernée a été mise en quarantaine pendant sa période de contagiosité et 2 cas acquis à l'étranger ont également été enregistrés au Victoria au cours des dernières 24 heures. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le variant Delta de Covid-19, identifié pour la première fois en Inde, s'est imposé comme le variant le plus dominant. Un constat qui tombe au moment où on enregistre une recrudescence d'infections en Grande-Bretagne. En effet, des recherches britanniques suggèrent que la variante Delta pourrait s'élever à jusqu'à plus de 60% des cas et les plus infectieuse que la variante alpha du coronavirus qui avait été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Le docteur Mike Ryan de l'OMS a déclaré que l'Indonésie connaît également une forte augmentation d'infections aux variants Delta, notamment à Jakarta et Java.
And that is a concern given what we've learned about the ability of the Delta variant to transmit in other areas. So there is no question that Indonesia is facing increased community transmission, increased prominence of the Delta variant.
Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont inquiétés de la circulation du variant Delta pendant leur rencontre hier à Berlin. Correspondance Pascal Thibault.
Nous ne pouvons pas faire comme si la pandémie était terminée. Angela Merkel comme Emmanuel Macron veulent rester vigilants et surveiller de près le danger potentiel du variant Delta. La situation sanitaire à court terme, mais aussi la nécessité d'une meilleure harmonisation entre les pays européens, figureront au menu de la rencontre des 27 la semaine prochaine. Le président français et la chancelière se sont félicités des avancées concrètes du plan de relance européen, issu d'une initiative franco-allemande pour l'avenir. Les deux responsables ont mis en avant leur accord sur les questions d'international. Le terme de souveraineté est revenu à plusieurs reprises. Emmanuel Macron s'est félicité qu'il fasse désormais partie du vocabulaire commun. Le président français comme la chancelière ont souligné que ce concept ne constituait pas une alternative à la relation transatlantique, mais venait la compléter. Sur les dossiers internationaux et notamment les relations difficiles avec la Russie et la Turquie, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'un dialogue malgré les provocations de Moscou évoquées par Emmanuel Macron ou le défi mentionné par Angela Merkel.
Et entre-temps, Joe Biden a appelé les Américains à l'ordre contre le Covid. En effet, pour le président américain, au moins 70% des Américains en âge adulte doivent avoir reçu au moins une première dose de vaccin d'ici le 4 juillet prochain, soit le jour de la fête d'indépendance des États-Unis. Mais de nombreux États ne sont pas sur la bonne voie, ce qui inquiète le président américain. Anne Corpé pour RFI.
300 millions de shots in arms in under 150 days.
300 millions de doses de vaccins administrées en 150 jours, c'est une étape clé, souligne le président. 65% des adultes américains ont désormais reçu une première injection. Joe Biden s'en félicite, mais il prévient, les efforts sont inégalement répartis aux États-Unis et le virus continue de tuer.
Malheureusement, les cas ne baissent pas dans de nombreux endroits, ceux où les gens ne se font pas vacciner. Ils sont même en hausse dans certains lieux et les données sont claires. Si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez de tomber sérieusement malade, de mourir et de répandre le virus. C'est très inquiétant, en particulier à cause du variant Delta. Un virus plus facilement transmissible, plus mortel et particulièrement dangereux pour les jeunes.
Et le président supplie les Américains de se faire vacciner afin de leur offrir un été de liberté. Au même moment, la vice-présidente Kamala Harris tenait un discours similaire aux habitants de Géorgie, un État du Sud où seulement 45% de la population a reçu une première dose de vaccin.
Entre-temps, un tribunal belge a ordonné hier aux fabricants du vaccin AstraZeneca de livrer 50 millions de doses à l'Union européenne d'ici fin septembre. La société dit qu'elle est en mesure de dépasser considérablement cet objectif dès la fin de ce mois. Mais le tribunal a déclaré que l'entreprise encourait des amendes d'une valeur de 10 euros par dose non livrée si elle ne se conformait pas au jugement. Il faut signaler que la Commission européenne avait initialement exigé un nombre de doses beaucoup plus élevé que celui décidé par le tribunal. Et l'Assemblée générale des Nations unies a nommé le secrétaire général Antonio Guterres pour un deuxième mandat de 5 ans. Le diplomate portugais de 72 ans s'est engagé à travailler sur la confiance entre les petites et les grandes puissances pendant son deuxième mandat, un mandat qui commence l'année prochaine. Antonio Guterres estime que des percées sont possibles et il s'engage à obtenir des résultats contre toute attente.
I will also seek to inspire hope that we can turn things around, that the impossible might be possible. The attitude is never to give up. This is not idealistic or utopian, but grounded in knowledge of history when big transformations occurred.
Et fin du premier tour des élections présidentielles en Iran, dans un scrutin marqué par un fort taux d'abstention. Et les électeurs ont eu à choisir entre quatre candidats. Le grand favori de ce scrutin iranien, l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi. Température des élections donc en Iran avec l'envoyé spécial de RFI à Téhéran, Ariane Verdier, dans un bureau de vote à Téhéran.
Dans une petite mosquée, une vingtaine de personnes est dispersée autour des urnes. Ici, il n'y a pas d'isoloir. Sur une table, un trentenaire remplit son bulletin de vote.
Moi, je vote pour le réformateur Abdel Nasser Emati. Ma famille est composée d'une vingtaine de personnes. Ils ont tous voté lors des précédentes élections. Mais cette année, nous n'étions que deux à voter, ma sœur et moi. Et je comprends qu'ils ne votent pas. Mais moi, je refuse de me laisser mener par l'émotion ou la mode.
En effet, en amont des élections, de nombreuses figures des réformateurs ont appelé à boycotter le vote en dénonçant un coup d'État électoral. Sur la table d'à côté, Ali ne voit pas le problème. Il fait confiance au Conseil des gardiens de la Constitution qui ont choisi de disqualifier de nombreux candidats, notamment tous ceux figurant sur la liste officielle des réformateurs.
Je ne suis pas bien placé pour remettre en question la décision du Conseil des gardiens de la Constitution. Ce sont des experts. Je suis certains qu'ils ont vérifié le passé des candidats avant de les invalider. Ce sont des personnalités expérimentées.
Ali a voté pour Ibrahim Raisi. Si les deux hommes ont choisi des candidats différents, ils ont un espoir commun que le futur président sorte le pays de la crise économique.
Et retour en Australie, où le gouvernement du Victoria a déclaré qu'il va offrir des petits générateurs d'électricité aux résidents vivant dans des zones touchées par des tempêtes et qui seront privés d'électricité jusqu'au 10 juillet prochain. Les 200 générateurs proposés ont une capacité de 8 kW et seront mis à disposition des habitants à titre temporaire jusqu'au raccordement de leur alimentation électrique. De récentes intempéries ont en effet détruit des infrastructures, laissant des milliers de ménages, principalement dans les Dandenong Ranges, sans électricité. Et le ministre d'énergie, Lily D'Ambrosio, a déclaré qu'il y aurait un processus d'évaluation équitable pour déterminer qui aura accès aux générateurs.
Everyone is confident that those most in need will have the first priority, if you like, in terms of receiving the small generator. And I do want to also say that what is important here too is that the ADF, CFA, SES, they will all be providing assistance.
Et on reste dans le Victoria, où l'Assemblée des peuples premiers de l'État a mis en garde le gouvernement du Victoria, qu'elle accuse de ne pas tenir des promesses faites aux propriétaires traditionnels. Lors de sa réunion de ce mois-ci, les membres de l'Assemblée des peuples premiers du Victoria ont exigé une action plus ferme du gouvernement, car il n'a pas encore produit de résultats. L'Assemblée souhaite une meilleure reconnaissance, affirmant que chaque groupe de propriétaires traditionnels a droit à l'autodétermination. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce samedi, Perth 19 degrés, Adelaide 16, Melbourne 15, Hobart 13, Canberra 13 degrés également, Wollongong 16, Sydney 16 aussi, Newcastle 17, Brisbane 20, Cairns 26 degrés et Darwin 32 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre deux autres cas de coronavirus, portant son cluster de Bondi à 6 infections. Et le variant Delta du Covid-19 au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et Joe Biden tente de relancer la campagne de vaccination aux États-Unis.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Dans l'actualité sportive de ce samedi 19 juin, on commence avec le football, avec quelques résultats de l'Euro. Bien, hier, la Belgique a battu le Danemark 2-1. Les Pays-Bas se sont imposés contre l'Autriche 2-0. La Suède s'est imposée également face à la Slovaquie 1-0. Par contre, match nul dans la rencontre qui opposait la Croatie contre la Tchéquie, 1-1. Au tableau de l'Euro ce soir, il y a la rencontre entre la Grande-Bretagne qui joue contre l'Écosse et surtout le match tant attendu entre la France et la Hongrie. Coup d'envoi à 23h ce soir. Hugo Moissonnier de RFI nous décrit l'ambiance à Budapest en marge de cette rencontre. Et surtout, il nous donne un premier pronostic des chances des Bleus.
Les Bleus affronteront la Hongrie au stade Ferenc Puskás. Et oui, du nom de ce joueur, le plus grand joueur de l'histoire du football hongrois, qui a notamment porté les couleurs du grand Real de Madrid dans les années 50. L'arène Ferenc Puskás qui sera comble pour la réception des Bleus, comme elle l'a été pour la réception du Portugal il y a quelques jours. C'est la particularité des matchs disputés ici en Hongrie. On joue devant des tribunes pleines, quand bien même la Hongrie a été extrêmement touchée par la pandémie de coronavirus, quand bien même les gestes barrières ne seront pas très contraignants dans l'arène Ferenc Puskás. Sur le plan footballistique, les Bleus tenteront évidemment de valider leur billet pour les huitièmes de finale dès leur deuxième rencontre, de confirmer leur excellente prestation face à l'Allemagne à Munich en ouverture, avec pourquoi pas l'envie de soigner la confiance et la différence de but. On a envie de voir le trio que toute l'Europe redoute, Griezmann, Mbappé, Benzema, enfin trouver le chemin défilé, au moins pour l'un d'entre eux, face à une équipe de Hongrie qui avait tout de même bien résisté face au Portugal avant de s'effondrer dans les dernières minutes et de s'incliner sur le score de 3-0.
Et pour la petite histoire, on signale également que les Bleus, du moins certains d'entre eux, se retrouveront face à face avec un de leurs anciens coéquipiers, Loïc Négo. Portrait de ce Hongrois d'adoption avec Antoine Grenier pour RFI.
L'histoire aurait pu être celle d'un éternel espoir français. Mais le 12 novembre dernier, c'est bien pour la Hongrie que Loïc Négo égalise à la 88e minute du barrage face à l'Islande. Vainqueur de 1, les Hongrois décrochent leur billet pour l'Euro et ils le doivent en partie à ce Parisien formé au FC Nantes, remarqué par Eli Bop, puis par Gernot Rohr, entraîneur des Canaries en 2009.
Il avait fait de bons entraînements avec les professionnels et c'était un garçon qui jouait milieu défensif, rapide, polyvalent au milieu. Et ça faisait partie des jeunes talents qui ont été formés au FC Nantes.
Négo, champion d'Europe des moins de 19 ans en 2010 avec la France, aux côtés notamment d'Antoine Griezmann. Mais sa carrière prend un tour inattendu après un transfert raté à Rome. En 2013, il atterrit en Hongrie, à Újpest. Et en quelques matchs à peine, il s'impose aux yeux des supporters, notamment de Christian.
Il nous avait été présenté comme un champion d'Europe chez les jeunes. Mais on était sceptiques parce que des jeunes très forts et qui ne confirment pas, on en connaît plein. Mais Négo nous a surpris par sa vitesse et son utilisation du ballon. En plus, même si c'est quelqu'un de discret, c'était le premier, qu'on perde ou qu'on gagne, à venir voir les supporters à la fin des matchs.
Négo pose définitivement ses valises en Hongrie en 2015, de nouveau à Újpest, puis fait Harvard où il étoffe son palmarès d'un titre de champion en 2018. L'année suivante, il obtient la nationalité, faisant de l'histoire de l'éternel espoir français le conte de fées d'un Hongrois d'adoption.
Des milliers de personnalités telles que de hauts responsables de l'UEFA, des politiciens, des sponsors et des personnalités du monde médiatique pourraient être autorisés à entrer en Grande-Bretagne sans quarantaine. Le stade de Wembley accueillera à la fois les demi-finales de l'Euro et la finale en juillet. Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé que les discussions étaient en cours avec l'instance dirigeante du football pour faire des exemptions spéciales.
We'll do what we have to do to keep the country safe from COVID. That's obviously going to be our priority. We'll be talking to UEFA about what they want and see if we can make some sensible accommodations. But the priority obviously has to be public health.
Et le milieu de terrain danois Christian Eriksen a quitté l'hôpital hier après une intervention chirurgicale réussie suite à son arrêt cardiaque lors d'un match du groupe B de l'Euro 2020. On se souvient que le joueur de 29 ans a dû être réanimé sur le terrain de Copenhague et il a été équipé d'un défibrillateur cardiovecteur implantable. La Fédération danoise de football a déclaré que Christian Eriksen rentrait chez lui pour passer du temps avec sa famille après son hospitalisation. Aux États-Unis, la star du football américain Megan Rapinoe et l'actrice Priyanka Chopra Jonas rejoignent Victoria's Secret dans ce que le géant de la lingerie appelle un changement spectaculaire pour la marque. Madame Rapinoe et Madame Chopra Jonas feront partie d'un groupe de femmes qui travailleront avec l'entreprise sur des collaborations, des partenariats commerciaux et des initiatives liées à une cause. On reste toujours dans le football, mais cette fois-ci en Australie, où se jouent cet après-midi les demi-finales de la A-League. La première demi-finale opposera Melbourne City contre MacArthur, coup d'envoi à 16h05. Deuxième demi-finale, ce sera une rencontre entre Sydney FC, qui joue contre Adelaide United, le coup d'envoi 19h05. Et au rugby, demi-finale de rugby du top 14, Toulouse et Bordeaux s'affrontent ce soir à Lille pour le dernier ticket. Le vainqueur jouera contre La Rochelle, tombeur du Racing, 19-6. La finale 2021 sera une rencontre historique à plusieurs égards, notamment parce que ce sera la toute première finale pour La Rochelle, pourtant un des plus vieux clubs de rugby en France. Ce qui explique sans doute l'émotion de Vincent Merlin, président du club, lui-même ancien joueur jaune et noir.
C'est des émotions extrêmement fortes, extrêmement fortes. Là, ça y est, la pression est descendue un peu, mais c'est à pleurer de joie, quoi. C'est à pleurer de joie, des matchs comme ça. C'est
une belle émotion qui tranche peut-être un peu avec votre entraîneur principal qui disait « on n'a encore rien fait ».
Il a raison, il est génial. C'est vrai que quelque part, il faut avoir de l'ambition. Et il nous a donné cet esprit de la gagne, et cette combativité qui veut qu'à un moment donné, on se surpasse pour aller chercher la victoire. Et c'est grâce à ces moments-là, ces entraînements où ils apprennent à aller chercher ces victoires, ces moments forts, que ça donne ça sur le terrain. C'est... Alors il a raison, oui, je lui donne totalement raison, on n'a rien fait, on est qu'en finale. Bon, malgré moi tout, je suis très heureux pour ça.
Malgré tout, en finale justement, et à qui est-ce que vous pensez après ces 30 ans de présidence à ce moment-là, au moment de réaliser cet exploit d'aller au Stade de France?
Je vais vous avouer, c'est à l'intérieur, c'est pas des choses qu'on peut exprimer, c'est des... Émotionnellement, c'est...
Merci beaucoup, on vous laisse vous remettre. C'est énorme.
Un Vincent Merlin émotionnel à l'issue de la qualification de son équipe pour la première fois pour une finale de rugby en France. Ces émotions étaient recueillies par nos confrères de RFI. Et un mot de tennis, Rafael Nadal ne reviendra pas sur le gazon londonien en 2021. En effet, le numéro 3 mondial a annoncé cette semaine qu'il déclarait forfait pour Wimbledon et les Jeux Olympiques. Demi-finaliste à Roland-Garros, battu par Novak Djokovic, Nadal juge que le délai de récupération entre les deux tournois du Grand Chelem est trop court cette saison. Marqué physiquement par son combat monumental de 4h11 contre Novak Djokovic, Nadal manque l'opportunité d'améliorer son palmarès au Grand Chelem et aussi de remporter un deuxième titre olympique. Après son retrait soudain de Roland-Garros, la japonaise Naomi Osaka ne participera pas elle non plus à Wimbledon. Elle devrait en revanche participer aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se jouent entre le 24 juillet et le 1er août. La quadruple lauréate en Grand Chelem avait indiqué après son départ de Roland-Garros qu'elle prenait du recul par rapport aux Jeux en raison des problèmes de dépression et d'anxiété. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi 19 juin. Suite du programme après la pause. Et c'était le reste par Clara Luciani qui vous arrive sur les antennes de la radio SBS à 13h28. Restez avec nous parce qu'après la pause, nous allons tout de suite vous proposer notre rubrique rétro. Et cette semaine, on va voir l'exécution des époux Rosenberg. C'était en 19 juin en 1953.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Nous notre rétro sonore comme chaque samedi. Nous sommes le 19 juin. Le 19 juin 1953, aux États-Unis, les époux Ethel et Julius Rosenberg, couple communiste de New York, étaient exécutés sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing, condamnés pour avoir livré des secrets sur la bombe atomique à l'Union soviétique. L'affaire avait fait grand bruit. Étaient-ils vraiment coupables ou ont-ils été exécutés, pour l'exemple, dans cette Amérique des années 50, obnubilée par la peur de la contagion communiste? Les époux Rosenberg, exécutés le 19 juin 1953, c'est notre rétro du jour avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Un drame cependant vient de jeter un nuage sur ce début d'euphorie de l'esprit occidental. Condamné à mort dans les formes juridiques depuis 2 ans pour livraison de secrets atomiques, et après avoir usé de tous les recours, Ethel Rosenberg et son mari Julius Rosenberg ont subi la peine de mort malgré tous les appels à la clémence. Ils avaient attendu pendant 2 ans l'heure du supplice.
Prison de Sing Sing, État de New York. Un homme, puis une femme, sa femme, se succèdent sur la chaise électrique. 3 décharges sont nécessaires pour le premier, 5 pour la seconde. C'est l'épilogue tragique de l'affaire Julius et Ethel Rosenberg.
Les Rosenberg étaient emprisonnés depuis 2 ans et demi quand Eisenhower succéda en janvier 1953 à Harry Truman. Le monde était en pleine guerre froide et l'Amérique n'avait plus le monopole de l'arme atomique. Son expansion était la priorité des priorités, rappelle l'Humanité. Et l'anticommunisme désignait tout naturellement son ennemi de l'intérieur. L'affaire Rosenberg en est l'exemple. Le couple Rosenberg est accusé d'avoir mis sur pied en 1944 un réseau d'espionnage au profit de l'URSS et d'avoir transmis à cette puissance les secrets de la bombe atomique. « Vous avez détourné le cours de l'histoire au détriment des États-Unis », a dit le juge Kaufman en prononçant sa sentence de mort. Alors, coupables ou non coupables les Rosenberg? Pour beaucoup, ils ont été les victimes innocentes d'une effroyable machination policière montée par le FBI et le gouvernement américain en vue d'intimider le mouvement progressiste.
Les Rosenberg sont exécutés, écrit Paris Presse. L'exécution des Rosenberg, poursuit le journal, est assurément, sur le plan politique, la plus grande faute que les États-Unis aient jusqu'ici commise dans la guerre froide. On ne juge plus un homme et une femme, on ne cherche presque plus à savoir s'ils sont coupables ou innocents, on évalue le poids d'exemplarité que leur châtiment peut constituer.
Dans cette affaire d'espionnage atomique, il faut rappeler que les accusés étaient non seulement communistes, mais juifs. Les journaux antisémites soulignèrent ce fait à l'envi. Or, aucun juif ne figurait dans le jury, ce qui peut paraître surprenant dans une ville comme New York, où le tiers de la population est juive. Seul le juge, Kaufman, et le procureur étaient juifs. Kaufman n'a-t-il pas été déterminé à faire preuve d'une plus grande sévérité à l'égard de ses corélégionnaires, interroge Le Monde, soit pour dissocier la communauté juive des accusés, soit pour s'éviter des attaques antisémites. On peut donc raisonnablement penser que si les Rosenberg n'avaient été ni juifs, ni communistes, ils n'auraient été aussi sévèrement frappés, car aucune condamnation à mort n'avait jusqu'à présent été prononcée aux États-Unis pour crimes d'espionnage, même en temps de guerre. D'autres espions, de plus grande envergure, ayant commis et avoué des faits beaucoup plus graves, n'ont été condamnés qu'à de simples peines de prison.
Dans le cas des époux Rosenberg, qui ont marché dignement vers la chaise électrique, la décision de mort, même prise sous l'angle de la nécessité, semble absurde. L'Amérique et son président n'ont apparemment rien gagné à choisir la voie de l'horreur absolue.
Il a donc fallu, pour électrocuter Julius Rosenberg, 3 décharges électriques successives et 5 pour Ethel. La mort, dit-on, est immédiate par paralysie des centres nerveux. Hier soir, Eisenhower avait rejeté l'appel officieux présenté par Ethel Rosenberg, lui demandant d'épargner sa vie et celle de son mari. Cet appel contenait entre autres ceci. C'est principalement la sentence de mort que je vous supplie de méditer. Je vous supplie de vous demander si cette sentence ne sert pas des fins de force et de violence plutôt qu'une justice éclairée. Les protestations constantes de notre innocence tout au long d'une période prolongée d'internement solitaire et de séparation forcée d'avec les êtres qui nous sont chers fait de la peine de mort un acte de vengeance. Quel simple geste pourrait démontrer la fidélité de cette nation aux idéaux religieux et démocratiques que d'accorder la grâce à mon mari et à moi-même. Cette lettre fut remise entre les mains d'Eisenhower 1 heure avant l'exécution.
s'est exécuté conformément aux lois de cet État sur la chaise électrique.
Cette sentence est illégale! Les Rosenberg ne sont justiciables que de la loi sur l'espionnage atomique en temps de paix! Et au terme de cette loi, jamais dans notre pays on n'a condamné à mort. Et de plus, le jury doit se prononcer sur la peine. Il n'a pas été consulté!
Les Rosenberg sont justiciables de la loi sur la trahison. La sentence est prononcée. L'audience est terminée!
Mes parents ont été arrêtés quand j'avais 3 ans. Ils ont été tués quand j'en avais 6. Mon nom est Robert Miropol, mais je suis né Robert Rosenberg. Mes parents, Julius et Ethel Rosenberg, ont été exécutés après avoir été déclarés coupables de conspiration d'espionnage par le gouvernement américain le 19 juin 1953.
One of the greatest peacetime spy dramas in the nation's history reaches its climax as Julius Rosenberg and Morton Sobel, convicted of revealing atomic secrets to the Russians, enter the Federal Building in New York to hear their doom. Another of the spy ring, Mrs. Ethel Rosenberg, who with her husband was convicted of actually transmitting the secrets to Russia through Soviet diplomatic channels.
Nous témoignons de la justice du Seigneur, de son terrible glaive Dieu met fin à nos malheurs. Nous espérons en sa gloire et notre bonheur, la vérité vaincra. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. La vérité vaincra.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Oiseaux, l'envergure qui lutte.
Et c'était Vanessa Paradis dans son morceau. Il y a ces morceaux. Vous arrivez sur l'antenne de la radio SBS ce samedi 19 juin. Et bien, pour le reste du programme sera consacré à la culture aborigène. On commence d'abord avec un entretien entre Christophe Mallet et Louise, une femme française mariée dans la culture aborigène. Et cet entretien sera suivi par un autre entretien que j'ai fait, mais en anglais cette fois-ci, avec deux auteurs, Rhonda Collard Spratt et Franco Ferri, qui ont sorti un livre de contes pour enfants, et aussi un album donc, qui va avec ce livre pour enfants. Sans plus tarder, l'entretien entre Christophe Mallet et Louise pour nous parler de son expérience d'être marié dans la culture aborigène.
Vous êtes avec SBS French.
Alors, on est ici avec Louise. Vous avez une histoire un petit peu singulière. Vous êtes française, mais vous êtes mariée dans la culture aborigène.
C'est ça, exactement. Donc, mon mari est aborigène. Il vient de Tasmanie. Et en fait, quand on a eu des enfants, on a découvert cet endroit où c'est tout à propos de la culture aborigène. Donc, nous, on vient tous les mercredis pour le Bush Playgroup, ça s'appelle. Et donc, on apprend les contes aborigènes. Voilà, les contes aborigènes. Donc, on chante, on danse. Oui, c'est super. Ouais, c'est ma deuxième maison.
On entend les enfants derrière. C'est important pour eux aussi, je suppose.
Oui, très important. C'est très important pour eux et pour moi aussi, parce que c'est leur héritage. Ça fait partie d'eux. Et ouais, c'est super.
Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire singulière. Vous vous êtes rencontrés. Vous ne saviez pas forcément qu'il était aborigène à l'époque. Comment ça s'est passé?
Alors, on s'est rencontrés en fait sur... Donc, moi, je voyageais en Australie juste en tant que backpacker. Donc voilà, je faisais le tour de l'Australie et je me suis retrouvée sur French Island, donc qui est une petite île pas très loin d'ici. Et il travaillait là-bas et on s'est rencontrés comme ça et on est plus ou moins tombés amoureux. Enfin, plus ou moins, voilà.
Plus ou moins.
Ouais. Non, on est tombés amoureux et en fait, et donc je me suis retrouvée ici. Voilà, je me suis dit, bon, bah, il est pas mal, j'aime bien ce que vous payez. Voilà, je vais rester ici. On a eu des enfants et après, c'est... Parce que lui, en grandissant, il n'a jamais été en relation avec les aborigènes. Jamais, vraiment. Et pour moi, c'était important que mes enfants, étant aborigènes, qu'ils aient cette culture, que ça fasse partie d'eux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai poussé à s'introduire un peu, à chercher, à se... Voilà, et donc c'est comme ça que... Voilà.
Et vos parents dans tout ça? C'est quoi leur réaction?
C'est dur pour eux. qu'on soit si loin. Mais ils adorent la culture. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils adorent. Mon père est venu ici plusieurs fois et à chaque fois, il y a une émotion ici, il y a un, vibe.
Mais pour le coup, ils ont aussi une expérience australienne qui est peut-être différente d'autres parents qui ont des enfants français qui ont décidé de rester ici parce que vous êtes vraiment intégré au cœur de la Première Nation en fait.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point. J'ai pas pensé comme ça, mais oui. Et ils apprennent aussi. Parce que moi, j'apprends aussi, j'apprends avec mes garçons. Quand ils viennent ici, ils apprennent et moi aussi, j'apprends. Et je pense que mes parents aussi. Et c'est un beau cadeau, je pense, pour eux et pour moi.
Et cette culture aborigène, est-ce qu'elle a été un peu compliquée à intégrer ? Parce qu'on n'a pas ça dans le sang. Mais vous devez apprendre ça tous les jours. Donc, il y a des faux pas, on fait des erreurs. Est-ce que c'est un peu ça aussi ?
Oui, c'est un petit peu ça, oui. Oui, on apprend en faisant des faux pas. Et je pense que pour eux... Donc, par exemple, si un jour vous demandez une mauvaise question, un faux pas, ou voilà, vous faites un faux pas, je ne pense pas qu'ils vont vous en vouloir. Parce que je pense qu'ils y sont passés par là aussi, parce que beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont pas donc full blood, comme on dit, aborigènes. Ils sont, par exemple, c'est leurs ancêtres qui étaient aborigènes. Donc c'est pareil, ils viennent ici parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent savoir d'où ils viennent. Et voilà, en faisant des faux pas, on apprend. C'est ça. Voilà.
Un peu comme avec les beaux-parents.
Exactement pareil, voilà. Exactement pareil, ouais.
En tant qu'étrangère, vous, si on fait un peu le point là-dessus, ces big cook-up, cette relation avec la population aborigène, ça veut dire quoi pour vous ? Parce que vous dites, vous apprenez, etc. Mais il y a sûrement une soif d'apprendre, c'est clair. Mais est-ce que c'est encore très impressionnant ?
Je pense que c'est beaucoup du respect aussi, parce que les indigènes, donc les indigènes d'Australie, c'est une population, enfin c'est peut-être la plus ancienne civilisation du monde. Et je pense que d'avoir ça dans leur sang, c'est juste... c'est énorme. Enfin, c'est énormément de... J'ai énormément de respect. Et donc, c'est pour ça que je viens, je suis juste... À chaque fois que je viens ici, c'est... oui, c'est beaucoup de respect. Beaucoup de respect et de...
Est-ce que si vous pincez un petit peu, vous repensez à la petite Louise qui avait 5, 6, 7 ans, ça veut dire quoi dans vos têtes ?
Vous m'aviez dit que... Alors oui, dans 20 ans... Tu habiteras en Australie, Louise, tu auras deux enfants qui font partie de l'héritage aborigène. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui.
Pour vous, c'est la maison ici ?
Ah oui, c'est ma maison. Ouais. Ouais, c'est ma maison.
Merci, Louise.
Je vous en prie, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Auntie Rhonda Collard-Spratt and Jackie Farrow, they've teamed up again and released a new book, Grandfather Emu and How the Kangaroo Got Her Pouch. Welcome to SBS French.
Thank you, Bertrand.
Thank you so much.
This is your second collaboration and it's been long coming and very much anticipated. Tell us about the story behind this book.
Well, this book is about Grandfather Emu or Waich. Is a great dreaming spirit that comes down as a crippled emu, an old crippled grandfather emu with one crippled leg and a blind eye, one eye that's blind. And it's a test to see what bush animals would be kind and patient and have compassion to help him find food and water. So it's a test to see which animal had all them qualities. So he asks the goanna, which we say carada, and he was too busy catching a feed, and he was so lazy after that, he just wanted to lay in the sun on a log. He was too lazy to help. And then we had Mother Numbat that was too busy searching for food for herself and caring for her baby. So she was too busy to even care. And there was Wardong the crow, who was too proud because he wanted to build the best nest in the bush, in the scrub. So he was busy looking for the best sticks to build his beautiful flash crow's nest. And there was Mother Kangaroo, Mother Yonga. She was kind. She was willing to hear him and she took him to food and water. So she had the best kind art and she had patience and she had compassion. So because of that, the dreaming spirit who was in of old grandfather Emu, he granted her one wish because of her kindness. And that wish she wished for, not just for herself, but all her marsupial sisters, that they could all have a pouch, that they could carry their babies with them wherever they went, and that their babies would be safe from the wedge-tailed eagles and the dingoes. So that's why today, because of the generosity of Mother Kangaroo or Yonga, all the marsupials in Australia have pouches except one. And that was Mother Numbat, because she refused to help old grandfather Emu. So today she carries her babies on her back because she wasn't kind. She didn't have a good heart. She showed no compassion to old grandfather Emu. So she missed out. Yet all the other marsupials in Australia have pouches because of Mother Kangaroo or Mother Yonga. We're introducing our native languages back into these books. We're doing a 5-series books of dreaming stories, and we're reawakening Aboriginal languages, which many have been sleeping for a long, long time. And growing up, I wasn't allowed to speak my native tongue because I'm stolen generation and we weren't allowed to speak it. We were told it was rubbish. And if we did speak it, we had our mouth scrubbed with soap and a brush. But I want to reintroduce it back to our kids to give them hope that, you know, everything about them, they matter, our Aboriginal kids, our First Nation kids, and to instill in them that we are important, they are important, they are our future. So it's about strengthening Indigenous kids and all kids to reconnect to elders and to listen to elders and to show them respect and honour them, because the elders are the carriers of knowledge, of wisdom and of our history. So it's a wonderful book. It's full of joy, full of beautiful paintings, which I've done. And it came about in the last year, my friend Jackie here. She rang me up and said, you know, in the middle of COVID, because being Aboriginal, I'm high risk with all our health issues. And she said, are you ready to do another book? And so we decided to do the dreaming stories.
You wrote this book during the pandemic. What were the impediments, the obstacles that you had collaborating and bringing this book about?
Oh, well, it was pretty easy, really, because I always come to Jackie's place or I talk to her on the phone. We sorted that issue out pretty easy.
We were lucky in Brisbane. We didn't have a long lockdown.
Yeah.
So when we wrote it, we were able to come together to write it. And then we would decide which paintings Auntie needed to paint, describing which scene and characters, all the bush animals, and then she'd go home and she'd paint those at home by herself. So
80% of Australians feel that they know little or nothing about Aboriginal culture. So this book is not only for Aboriginal children, but it's also intended to speak to other communities and other language groups.
Yes. If you're a human being, this is for you. It's for everybody, from the little ones, the teenagers, the young people, the young adults, and the elderly. The message is a universal message, and it's universal to all cultures to show our elderly respect, to show kindness, and to be the best person you can in your life, and to help people in need. And we need to open our ears, open our eyes, and open your hearts and your mind to all people in need, and not to turn your back on them. And I think that's a wonderful quality to have, eh, Jackie?
Yes, and I think another message is that I'm non-Indigenous, and I hope this book is one tool in all of us taking a step towards each other as one community in this country, whether you're black or white, that we are equals and that we can walk hand in hand, that we should listen to each other and respect each other as equals. I guess that's another message of the story in the way that we created it, that it's accessible to anyone. While it has a very strong message about Aboriginal culture and it has Noongar words from the Aboriginal language of Western Australia, it's actually written so that it is able to be read and understood by people of any cultural background, including white Australians, because we want this to be embraced by primary schools, this book. The Aboriginal children in the class or the children of colour in the class can feel proud to be First Nations children and that this is a story for them and that the other children can celebrate that with them and come together.
And the book comes with a song as well.
Well, I'm a singer-songwriter and Jackie sings too and plays the guitar. So I said to her, we need to have a song in every book.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
C'était Take the Time to Help, une chanson de Rhonda Collard, Auntie Rhonda Collard Spratt, qui vient de sortir aussi un livre de contes pour enfants, un livre de contes aborigènes. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 2 autres cas de coronavirus, portant son cluster de Bondi à 6 infections. Et le variant Delta du COVID-19 au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et aux États-Unis, le président Joe Biden tente de relancer la vaccination. Et ceci nous amène à la fin de cette édition. Je vous rappelle que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, donc je vous prie de continuer la discussion sur Facebook et Twitter. Et je vous invite aussi à visiter notre site internet sbs.com.au/french. Vous y retrouverez de nombreuses rubriques, y compris des rubriques qui ne sont jamais diffusées sur la radio, parce que ce sont des rubriques exclusives online. Donc sbs.com.au/french. Et aussi pour les amateurs de cinéma, visitez notre site sbs.com.au/ondemand. Il y a beaucoup de films français aussi que vous pouvez voir et des films internationaux, mais surtout je vous invite à voir beaucoup de nombreux titres français qui y sont disponibles à tout moment, donc depuis le confort de votre foyer. Voilà, merci de votre attention ce samedi après-midi. Prochaine édition demain dimanche entre 13 et 14 heures. L'édition vous sera présentée par Jean-Noël Ducasse. Bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.